Bonjour, 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 que je suis heureuse de vous retrouver en ce 30 août, jour de la Saint-Fiacre. En ce jour, bon, en ce soir, non en ce jour, il fait plein jour. Et puis le dimanche, le week-end, que dis-je, les vacances ne sont pas pliées. Il reste le bronzage, les souvenirs, une chanson peut-être, un apéritif, un t-shirt, une gourmandise. Il reste aussi les bonnes démangeaisons des aoûtas, des moustiques. Non, les araignées ne piquent pas en France. Quand on ne sait pas qui a fait le coup, on dit toujours que c'est une araignée. Il y a des boutons qui grattent à vous donner envie de vous faire amputer. Il y a des jours où on abandonnerait un bras ou bien carrément tout le côté gauche. Ne faites surtout pas ça, vous le regretteriez. Je me demande si on est plus piqué si on dort à côté de quelqu'un qui n'est jamais piqué. Vous croyez qu'il y a un quota de piqûres par couple? Ou au contraire, est-ce que c'est mieux parce qu'il n'attire pas les piqueurs, qui d'ailleurs sont des piqueuses? On pourrait louer un partenaire pour la nuit ou pour le dîner, juste pour attirer les moustiques sur lui. La consigne est d'être là. Comme un piège à guêpe en humain, mais surtout en beaucoup plus gentil pour les moustiques, car le piège à guêpe est cruel pour les guêpes. L'humain n'en mourra pas, je parle de moustiques communs, pas de moustiques tueurs. Ça pourrait être un travail d'intérêt privé. Les prisons débordent, envoyez-moi un délinquant qu'il vienne se faire piquer. Les restaurants qui affichent voituriers dans les villes pourrait de la même façon afficher moustiquier dans les campagnes.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 10 ans et je voudrais savoir combien de temps vit un moustique. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi quand un moustique nous pique, ça nous fait pas mal et qu'après on le sent. Merci de répondre à cette question. Au revoir.
Théo, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi les moustiques de la malaria ne se trouvent pas en France? Merci.
Eh ben dis donc, c'est pas très très gai toutes ces questions. Théo, Alice, Béatrice, le moustique de la malaria ne se trouve pas en France. Combien de temps vit un moustique? Pourquoi quand il pique on le sent pas? Et puis après, on le sent. Léon Roger, entomologiste.
Bon. C'est vrai qu'on aura toujours du mal à rendre sympathiques les moustiques.
Bah oui.
C'est... Ils sont toujours associés à des nuits d'été gâchées ou des souvenirs de rencontres cuisantes.
Par quoi on commence? Par combien de temps il vit, non?
Alors les moustiques en général ont une durée de vie de quelques jours à quelques semaines.
Ah, c'est tout.
Les mâles vivent pas très longtemps, les femelles vivent un peu plus longtemps. Ils sont capables de pondre plusieurs fois des dizaines d'œufs dans des milieux différents, mais particulièrement dans l'eau. Les moustiques qui nous intéressent, si j'ose dire, sur un plan combat des maladies, puisque les moustiques transmettent des maladies assez facilement, ce sont les moustiques dont les larves se développent dans le milieu aquatique. Ce sont des insectes à métamorphose complète et la larve va se transformer en moustique plus tard, après.
C'est comment une larve de moustique?
C'est un petit animal qui est bardé de petites soies raides un peu partout et qui gigote dans tous les sens dans l'eau, dès qu'on s'approche de la surface de l'eau,
oui.
Qui se laisse remonter après tranquillement et qui respire par un tube aérifère se trouvant à l'extrémité de l'abdomen.
Ah bon, comme un tuba?
Un tuba, tout à fait, c'est un tuba.
Ah c'est ça, moi j'ai fait un purin d'ortie, il y a plein de petites bêtes comme
voilà.
Ça, c'est des larves
c'est
de
des
moustiques.
Alors vous aurez bientôt les moustiques qui vont avec, si vous ne détruisez pas ça.
C'est sympa, d'abord ça pue, en plus il y a des moustiques. Mais alors, la malaria, c'est le palu.
La malaria, c'est le paludisme, tout
le
à fait.
Paludisme, pardon.
Alors, il faut savoir qu'il y a eu du paludisme dans le temps, et notamment en Camargue, il y a eu des infestations de paludisme, et que c'est par action de destruction, de démoustication, qu'on a éradiqué cette maladie, en asséchant également les marais dans lesquels ces moustiques pullulaient, qu'on a détruit le paludisme. Alors, le paludisme existe encore dans de nombreuses régions du monde. On estime qu'il y a près de 40% de la population mondiale qui peut être exposée au paludisme, c'est-à-dire qui vit avec les moustiques porteurs de la maladie.
C'est une maladie mortelle.
C'est pas une maladie mortelle non. Pour tous les cas de paludisme. Il y a 4 vecteurs différents de paludisme. Il y en a un qui peut entraîner la mort dans quelques pourcents des cas. Et la plupart entraînent des retours de crises de fièvre qui peuvent durer jusqu'à 20 ans après l'infestation. Et les fameuses crises de palud, des gens qui sont allés dans les pays chauds et qui, 10 ans après, se réveillent avec une fièvre infernale, sont couchés pour 3-4 jours, ils sont abattus par une crise de paludisme. C'est surtout très très fatigant parce que ça détruit les globules rouges du sang. Donc ça affaiblit les personnes qui peuvent, à partir de ce moment-là, être attaqué par d'autres maladies. Une fois qu'on est affaibli,
oui,
on peut
être...
Oui,
parce qu'on est faible. Petit moustique peut entraîner des maladies aussi graves, peut provoquer des maladies
aussi
graves.
Le moustique n'y est pas pour grand-chose, en fait. Simplement, il est vecteur de protozoaires, c'est-à-dire de petits animaux très primitifs, qui, eux, transmettent la maladie et qui vivent naturellement dans notre corps. Dès qu'on les y met, ils s'y multiplient dans notre foie, notamment.
Parce qu'en fait, le moustique, s'il a piqué quelqu'un d'infesté et qu'après voilà. il va piquer quelqu'un de sain,
il va récupérer les éléments reproducteurs de ce plasmodium là, qui est justement un protozoaire. Ils vont se multiplier dans le moustique et quand le moustique va piquer, il va d'abord migrer dans les glandes salivaires du moustique, comme quoi les choses sont tout à fait faites pour qu'il y ait infestation de l'homme. Et quand le moustique va piquer, ce qui répond à la première question, pourquoi ça ne pique pas quand un moustique nous pique? Parce que tout simplement, dans les glandes salivaires, il existe un produit qui endort la peau. Et donc, une fois qu'on a été piqué, la peau ne sent rien. La salive qui a été injectée permet donc de calmer la douleur. Et après, le moustique suce le sang tranquillement. Et quand ça commence à nous démanger parce que le corps se défend contre les éléments étrangers...
Il est parti.
Le moustique est parti déjà, voilà.
Ça, c'est pour répondre à Béatrice, oui. Donc, le moustique a une espèce de petit anesthésiant. Parce que sinon, si ça faisait mal tout de suite, pof, on lui mettrait une claque et puis on le tuerait.
Il n'y aurait plus de moustique.
Quelquefois, me dit Eliane, on le sent nous piquer, on le sent du verbe sentir. Souvent, en ce moment, ce qu'on prend aussi pour des moustiques, ce sont des aoûtas qui n'ont rien à envier aux moustiques niveau des mangeaisons. Dans les petits bateaux de ce soir, on saura pourquoi on paye l'autoroute. Vous êtes peut-être sur l'autoroute, là, pour un moment d'ailleurs, sans vouloir être négative. On saura aussi pourquoi on a deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles, etc. Et pourquoi les Allemands, enfin, voulaient l'Alsace et la Lorraine. Tout de suite, nous allons parler art avec Françoise Barbegal, c'est son métier. Peut-être cet été, avez-vous visité des ouvrages d'art? Avez-vous visité des musées? Avez-vous visité des églises?
J'ai 4 ans, je m'appelle Maëlle. Je voudrais savoir pourquoi dans les églises, il y a des vitraux.
Maëlle, figure-toi que Françoise Barbegal, historienne de l'art, a écrit « Comment parler de l'art et du sacré aux enfants » aux éditions du Baron Perché. Vous êtes également la créatrice de Coretta. Alors Maëlle demande pourquoi dans les églises il y a des vitraux.
Eh bien Maëlle, d'abord parce qu'il y a des fenêtres. On avait besoin de fenêtres dans les églises pour que les fidèles qui s'y rassemblaient puissent tout de même retrouver un petit peu leur chemin. Bon, on a besoin de fenêtres. Alors on s'est dit... Il faut que les fenêtres soient utiles à quelque chose. Et puisqu'on pensait que les gens devaient apprendre, grâce aux images, l'histoire sainte, l'histoire de Jésus, de la Vierge, des saints personnages, etc., etc., on s'est dit, il n'y a pas que les tableaux, il n'y a pas que les fresques qu'on peint directement sur les murs, il y a aussi les vitraux, c'est-à-dire qu'on va découper des petits morceaux de verre coloré et en les assemblant, puis on obtient des personnages et même quelquefois des scènes très compliquées. Alors évidemment, il faut, pour qu'on puisse les déchiffrer, qu'il y ait assez de lumière, parce que c'est la lumière du soleil qui, venant de l'extérieur, traverse les vitraux et rend cette image lisible, déchiffrable. Alors c'est là quelque chose de très intéressant apparaît. C'est que, en fait, pour les gens, ça n'était pas seulement la lumière du soleil. On estimait que c'était, au fond, Dieu qui envoyait cette lumière. Alors ça veut dire que s'il n'y a pas la lumière de Dieu, eh bien, les petites histoires des hommes sont incompréhensibles. Parce que s'il fait nuit, par exemple, et qu'on est dans une église, ben, on ne peut pas voir ce qu'il y a sur les vitraux. On n'y comprend rien. Il faut donc que le jour se lève, que la lumière devienne assez puissante et qu'en traversant les vitres, elle puisse encore une fois montrer les histoires. Et on se disait, mais oui, c'est bien comme ça. La lumière de Dieu traverse la matière qui, sans cela, serait sombre, obscure et qui ne donnerait même pas l'impression d'exister.
Donc Dieu éclaire notre existence d'humain dans tous les sens du terme.
Exactement.
C'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire, les vitraux et la lumière à travers les vitraux, ça vaut vraiment le coup, quelles que soient vos croyances, ça n'a rien à voir. Tout le monde a le droit de rentrer dans une église et de voir cette lumière qui traverse. Et rappelez-vous dans Proust, je ne sais pas dans lequel de ses livres, il raconte qu'il y a des petits carreaux de couleur par terre, parce qu'il y a la lumière chez lui qui passe à travers, je ne sais pas si ça s'appelle des vitraux, mais en tout cas, ce sont des carreaux colorés, j'aime bien dire ça.
Tu sais quoi, je retombe à chaque page, je m'effondre. Passe à moi, j'aimerais qu'on corresponde. D'où je suis, micro-ondes, les deux pieds dans la tombe. Passe en toi, je n'ai qu'un demi-monde. Ça ressemble à l'automne, cet été j'abandonne. J'ai trop froid, je t'écris sur du Bristol. En automne, tout s'émeut, propane, aérosol. Passe à moi, si quelqu'un
danse à moi. C'est joli, c'est joyeux, c'est entraînant. C'était Minou.
Les petits bateaux sur France Inter.
En ce moment, 30 août 2015, si on me dit Lorraine, je pense au Mirabel. Ce qui prouve qu'on vit quand même une époque sereine. Ça n'a pas toujours été aussi simple.
Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 8 ans. Et je voudrais savoir pourquoi, en 1870, les Allemands ont voulu prendre l'Alsace et la Lorraine. Au revoir et merci de me répondre.
Vincent, chapeau. Peut-être tu habites en Alsace ou en Lorraine. Chapeau quand même. Alors Frédéric Ancel, pourquoi en 1870 les Allemands ont voulu prendre l'Alsace et la Lorraine ?
Eh bien alors d'abord, il faut bien considérer avec beaucoup d'honnêteté, même si on aime tous passionnément la France, que c'est la France qui a fait la guerre. C'est la France qui a déclenché la guerre, c'est Napoléon III. D'ailleurs, Napoléon III, donc le neveu de Napoléon Ier, a fait la guerre pour une futilité, par erreur, parce qu'il souhaitait conquérir le Grand-Duché du Luxembourg, un tout petit territoire qui n'avait absolument aucun intérêt, et que, a priori, ça aurait dû se faire de manière diplomatique. Bon, il ne l'a pas accepté, et il est tombé dans le piège de Bismarck, qui était un grand stratège, et qui était, en quelque sorte, ce qu'on va appeler le Premier ministre. C'est-à-dire le chancelier de la Prusse, de la grande et puissante Prusse de l'époque. Donc Napoléon III déclenche la guerre. Eh bien qu'à cela ne tienne, les Prussiens relèvent le défi et font la guerre. Le problème, c'est qu'ils la gagnent. Alors non seulement ils ne l'ont pas enclenchée, mais en plus ils l'ont gagnée. Donc il faut bien admettre, Vincent, que dans ces conditions-là, bah, les Prussiens, ils avaient de quoi dire aux Français, écoutez messieurs, je suis désolé, mais là nous allons bien sûr nous retirer, rassurez-vous, mais on va garder un gage, on va garder quelque chose, on va croquer un morceau de votre territoire, fallait pas faire la guerre messieurs les Français, et puis surtout fallait pas la perdre. Bon, et du coup, ils s'emparent de l'Alsace, d'abord parce que la plaine d'Alsace est contiguë à la Prusse, à l'époque. C'est vraiment le territoire frontalier. Bon. Et puis, l'alsacien est une langue germanique. Donc, Bismarck va jouer là-dessus, sur cet élément culturel, même si les Alsaciens, on le sait parfaitement, voulaient rester en France, il va quand même jouer là-dessus pour annexer l'Alsace. Alors après, la Lorraine, c'est plus compliqué. C'est pas toute la Lorraine que les Allemands annexent. C'est une partie, en fait, c'est surtout la Moselle, pour être honnête. Et pourquoi ils annexent Metz et les alentours, c'est-à-dire la Moselle ? Eh bien, parce qu'il y a du fer. La langue, la culture, oui, l'histoire, tout ça, c'est très intéressant. Le vin, c'est très intéressant.
Mais c'est pas la quiche qu'ils voulaient.
Non, c'est pas uniquement la quiche. Peut-être qu'il y avait aussi la quiche, mais enfin, ils ne se contentaient pas de ça. Et comme la Prusse, qui va devenir Allemagne en 1871, donc quelques mois après la guerre à Versailles, était en pleine croissance industrielle, il leur fallait du fer. Il y avait du fer en Moselle. Merci, messieurs les Français, nous annexons l'Alsace. Et puis un petit morceau supplémentaire, qui ne parle d'ailleurs pas l'alsacien, mais quand même, c'est pas grave. Et on va prendre le fer. Et c'est pour ça que de 1871 à 1918, donc jusqu'à la victoire, enfin l'armistice de 1918, eh bien l'Alsace et une grande partie de la Lorraine, malheureusement, ne seront plus françaises.
Eliane me disait, si tous les profs d'histoire parlaient comme ça, on les écouterait. Frédéric Ancel est prof d'histoire, ma chère Eliane, à Sciences Po. Il est docteur en géopolitique.
Bonjour, je m'appelle Gilles Vincent, j'ai 2 fois 11 ans et je voudrais savoir pourquoi on a 2 bras, on a 2 jambes, on a 2 yeux, on a 2 oreilles. Enfin, pourquoi on est pareil du côté gauche et du côté droit ? Merci beaucoup.
Vincent Fleury, physicien.
Cher Gilles Vincent, tout d'abord, si tu es vraiment pareil du côté gauche que du côté droit, c'est un problème parce que aucun être humain n'est identique du côté gauche et du côté droit. Ah. Nous sommes approximativement identiques pour l'aspect extérieur. Mais même ça, c'est pas vrai. On a tous un œil plus grand que l'autre, les empreintes digitales qui sont pas les mêmes des deux côtés, les gauchers, les droitiers. Alors en plus, à l'intérieur, c'est complètement différent puisqu'on a le cœur à gauche et le foie à droite. Ah non, pas tout le monde. Il y en a qui ont le cœur à droite, le foie à gauche. Donc, nous ne sommes pas identiques à gauche et à droite. Alors maintenant, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle une symétrie bilatérale, bon, partielle, mais enfin, on a une symétrie bilatérale. Donc, la première partie de la question, et donc la première partie de la réponse, c'est pourquoi nous avons cette symétrie bilatérale.
Alors,
des tas d'animaux qui n'ont pas la symétrie bilatérale. Il y a des tas d'animaux qui sont ce qu'on appelle radiés, sont en cercle. Alors la raison, c'est qu'au moment de la formation des vertébrés, dont nous sommes, les humains, imaginons que l'embryon de base soit une espèce de grosse rondelle en caoutchouc. La formation des animaux, c'est une énorme traction, comme si je tirais au debout. Alors, quand je tire au debout sur une rondelle en caoutchouc, ça a tendance à faire 2 plis au centre. Ce mécanisme d'extension dans les embryons est la cause du caractère bilatéral de la forme. Alors, évidemment, on pourrait essayer de chercher pourquoi l'extension a lieu de façon aussi propre au centre. Alors ça, ça vient du fait que quand les cellules se divisent, l'ovule se divise en deux, et ben, y a un axe au milieu, et cet axe, en quelque sorte, se révèle dans le moment où ça tire au milieu, et ça plie en faisant deux parties. Alors maintenant, il y a encore une autre partie de la question, c'est qu'on peut très bien être bilatéral avec 200 yeux et 200 pattes. Il y a des tas d'animaux bilatéraux, hein, comme les 1000 pattes. Les 1000 pattes, ils n'ont pas 1000 pattes, ils ont 400 pattes. Ils en ont 200 d'un côté, 200 de l'autre. Ou par exemple, le lombric, qui est aussi un bilatéral. C'est un ver annelé, il a des anneaux, des anneaux, des anneaux, des anneaux, des anneaux. Maintenant, chaque anneau, il y a en gros un œil, un cerveau, un cœur. Donc, on pourrait avoir beaucoup plus d'yeux qu'on en a. On pourrait avoir beaucoup plus d'oreilles qu'on en a. La seule chose qui est répétée N fois, c'est-à-dire 2N fois chez les humains, c'est les vertèbres et les côtes. Et il se trouve qu'à la façon dont plie l'embryon, eh bien, les yeux, c'est des espèces de grosses boules à l'avant. Donc, ça ne fait pas de grosses boules le long du dos. Donc, on n'a pas des yeux tout le long du dos, contrairement à certains animaux qui plient en accordéon. Et à ce moment-là, ils ont des yeux sur chacun des plis de l'accordéon. Il n'y a pas de raison très profonde au fait que nous ayons que deux yeux ou que deux oreilles. On pourrait avoir plus d'yeux et plus d'oreilles. Tous les organes sont des organes doubles, dont certains, le double organe fusionne pour n'en faire qu'un. Donc typiquement, le cœur est constitué de deux cœurs qui fusionnent, mais il y a beaucoup d'animaux, comme les crocodiles par exemple, où le cœur n'est pas fusionné complètement et ils ont deux cœurs séparés. Bon, un exemple très simple, c'est le pancréas. Donc tout le monde entend parler d'une personne A qui a malheureusement un cancer du pancréas, alors qu'on a deux reins, donc si on a un cancer d'un rein, on peut enlever quand même un rein. Le pancréas, en réalité, au stade embryonnaire, on a deux pancréas et ils se replient un peu comme du papier qu'on plierait et ils se soudent et ils deviennent un organe unique.
C'est extraordinaire. C'est toujours stupéfiant les réponses de Vincent Fleury, directeur de recherche au CNRS en biophysique, spécialiste de la morphogenèse. Son dernier livre édité chez Vuber s'appelle « La chose humaine ou la physique des origines ». Métronomie the look. Alors pour ceux qui sont nouveaux, vous savez que Les Petits Bateaux est une émission qui passe du coq à l'âne. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas et c'est bien ça qui nous amuse. Vous êtes où en ce moment, vous, sur l'autoroute? Ah ben oui, ouais, vous y êtes pour un petit moment.
Bonjour, c'est Pierre, j'ai 10 ans, je voudrais savoir pourquoi on fait payer l'autoroute. Merci, au revoir.
Jacques Nouvier, La signalisation routière en France de 1946 à nos jours, c'est un livre que vous avez écrit chez AMC Éditions. Pouvez-vous répondre à Pierre, pourquoi on fait payer l'autoroute?
Alors c'est une question un petit peu délicate. D'abord, Pierre, moi j'aimerais qu'on essaye de voir si on paye partout l'autoroute.
Ah, oui.
Alors dans certains pays, comme l'Allemagne, toutes les autoroutes sont gratuites. Du coup, elles sont extrêmement fréquentées. Il y a d'autres pays, comme la Suisse ou l'Autriche, où on paye une redevance pour une semaine, un mois, un an. Et on peut ensuite utiliser les autoroutes sans aucune limitation. Et puis il y a le cas de la France, où il y a des autoroutes qui sont gratuites et des autoroutes qui sont payantes. De la même manière, il y a des viaducs qui sont payants, comme le viaduc de Millau, ou des tunnels qui sont payants, comme le tunnel du Mont-Blanc. Alors en France, on a près de 12 000 km d'autoroutes, dont 23% sont gratuites. Et pourquoi? Ben, ça vient simplement du fait que l'État n'a pas eu les moyens de construire seul un réseau autoroutier. Et donc, ce type de voie étant absolument essentiel pour développer l'économie, il a trouvé d'autres moyens, et en particulier, le système des concessions a été utilisé. Le principe est le suivant. L'État confie à des sociétés concessionnaires, théoriquement à leur risque, l'ensemble des responsabilités de construction et d'exploitation des autoroutes. Ainsi, quand le papa de Pierre paye l'autoroute, il paye pour plusieurs choses. Le remboursement des frais de construction de l'autoroute sur laquelle il circule, la possibilité pour la société d'autoroute de faire des emprunts, etc., et donc de développer son réseau en construisant de nouveaux tronçons d'autoroute. Ils payent aussi pour les frais d'entretien et d'exploitation, qu'il s'agisse des frais de personnel ou des dépenses de matériel. Bon, il faut bien entretenir la chaussée et les aires de repos, il faut équiper l'autoroute en panneaux de signalisation, et en particulier en panneaux de signalisation à message variable, qui sont très chers. Il faut éclairer l'autoroute dans certains tronçons, il faut des équipements de viabilité hivernale, des équipements de péage, etc. Et franchement, on peut dire que l'entretien est globalement bien fait sur les autoroutes concédées et qu'on en a à peu près pour son argent. Enfin, on pouvait le dire jusqu'à 2005. Et puis en 2005, il y a eu le premier ministre de l'époque qui a eu l'idée sotte et grenue, comme disent des fois les enfants, de privatiser les autoroutes. Si bien que le papa de Pierre, il paye 20% de la somme maintenant totale pour les actionnaires des autoroutes. Et cette somme ne cesse d'augmenter et on voit pas bien comment on va sortir de cette situation. Donc, je suis un peu désolé, c'est pas très optimiste comme réponse, mais c'est la vérité.
Jacques Nouvier est président du groupe de l'OCDE sur la gestion de la vitesse. Si vous podcastez cette émission ou si vous venez sur notre site, vous pourrez bien vérifier qu'il y a 12 000 km d'autoroute dont 23% sont gratuits. Vous pouvez aussi acheter le livre Les Petits Bateaux qui est en édition poche. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Liane Girard, à Marjorie Devoucou, à Hélène Langlois et à Noël Bréham que vous retrouvez tous les soirs de la semaine et j'espère bien que vous serez là parce que sinon je serais trop dépitée. Tous les soirs de la semaine à partir de 11h. Je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.